Bulle de musique, une émission proposée par Catherine Kaufmann-Saint-Martin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir un musicien très doué, oboïste à l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, membre très actif de l'Association des Clés de Saint-Pierre, entre autres talents. Serge Krichensky, bonjour.
Bonjour Catherine.
J'ai l'habitude d'offrir une petite surprise à nos invités. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le hautbois ou plutôt les hautbois, voici la surprise. Requiem allemand de Johannes Brahms, ici sous la baguette de John Eliot Gardiner. Serge, vous l'avez dirigé vous-même récemment, très brillamment. C'était osé de se lancer dans une œuvre d'une telle ampleur.
Effectivement, ça a été l'opportunité que j'ai eue avec Véronique Grange, qui travaille avec le Cœur Tolosa de l'Institut catholique, de faire cette œuvre. Ça a été pour moi une grande chance, et puis ça s'est assez bien passé, je pense.
J'y étais, je peux confirmer.
Mais oui, merci beaucoup. C'est vrai que tout le monde, les musiciens, il y avait des musiciens très mélangés, des collègues professionnels, beaucoup de musiciens amateurs, des professeurs de conservatoire, des élèves, le Cœur Tolosa qui avait beaucoup travaillé pendant toute l'année, et on a donné vraiment tout ce qu'on a pu d'émotion, d'énergie pour ces deux concerts à Saint-Aubin. Ce sera pour moi un souvenir très fort qui normalement devrait être suivi l'année prochaine par la Passion selon Saint-Jean, donc à peu près à la même époque, fin juin.
Alors on reste dans les baies, Brahms, Bach.
Absolument.
En tout cas, j'y étais, je peux vous dire que le public l'a reçu avec beaucoup d'émotion également. Mais revenons au hautbois, qui est votre instrument de prédilection. Je vous remercie d'être venu à Altitude FM, la radio du Grand Toulouse, avec plusieurs instruments, pour nous faire une petite démonstration. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un hautbois ?
Un hautbois, c'est donc un instrument en bois noir, hein, qui a d'abord été en ébène, puis ensuite en un palissandre équivalent, hein, d'un bois très dur parce qu'il est énormément percé pour les clés, et donc un instrument d'une taille assez petite, hein, environ 70 cm. Au bout duquel donc on met une anche, c'est-à-dire un petit sifflet en roseau, une anche double, qui permet de faire une vibration qui est amplifiée donc par le tuyau en ébène. C'est un instrument qui existait déjà à l'époque baroque, qui a été beaucoup mis en valeur par les compositeurs baroques, et après, à partir de Mozart, Beethoven, à l'époque classique, romantique et moderne, beaucoup à l'orchestre. Il y a eu des concertos, de la musique de chambre, mais l'orchestre a été très très généreux en magnifiques phrases, magnifiques solos pour le hautbois.
Je crois qu'un des premiers compositeurs à l'avoir mis au rang de soliste, c'est Lully, sous Louis XIV, qui à la cour a voulu faire briller cet instrument.
Absolument, il y avait plusieurs hautbois dans l'orchestre de Lully, et après ça, les compositeurs italiens ont vraiment porté très très haut la sonorité, la virtuosité du hautbois, avec notamment un grand nombre de concertos de Vivaldi. De concerto pour un hautbois, deux hautbois, enfin plusieurs, Albinoni également, et puis ensuite bien sûr Bach l'a utilisé de façon tout à fait extraordinaire, généreuse, et d'ailleurs toute la famille des hautbois dont nous reparlerons tout à l'heure, c'est-à-dire le hautbois d'amour, le cor anglais, ont une place prépondérante dans l'œuvre de Bach, et en particulier dans les cantates et la musique vocale.
Handel aussi.
Absolument, Handel. Il y a des sonates, des concertos, toute la musique baroque a été très très généreuse pour le hautbois. Mozart a écrit un concerto également.
Un beau répertoire. Alors justement, vous venez de les citer, il y a dans les hautbois, dans la famille des hautbois qui font partie de la catégorie des bois, qui sont des instruments à hanches doubles, il y a trois instruments principaux, le hautbois, le cor anglais et le hautbois d'amour.
Absolument, donc le hautbois est celui qui a le répertoire le plus vaste et le plus aigu des trois. Le cor anglais est un petit peu plus grave et un son légèrement différent du fait de son pavillon un petit peu en forme de bulbe, hein, et qui retient un petit peu la sonorité, qui donne une sonorité un peu plus sombre. Et le hautbois d'amour est intermédiaire, il est un peu entre les deux. Il a encore une personnalité différente, et il a beaucoup été employé par Jean-Sébastien Bach de façon magnifique dans les Passions, Saint Matthieu en particulier, et puis certaines cantates.
Il a un beau nom en plus.
Oui, un très beau nom.
Alors Serge, comme vous avez eu la gentillesse de venir avec tout votre petit matériel, et ce n'est pas rien le matériel d'un hautboïste, je vais vous demander de nous faire une petite démonstration du hautbois et du cor anglais que vous avez ici dans le studio d'Altitude FM, et puis nous reviendrons ensuite à quelques extraits musicaux.
Avec
plaisir. Vous écoute. Merci Serge pour ce passage d'un des chefs-d'œuvre de l'opéra russe, Le Prince Igor d'Alexandre Borodine. Vous venez de l'interpréter au hautbois. Vous l'offrez maintenant au cor anglais en live du studio de Folle de Musique.
Thank you.
Merci Serge pour cette petite démonstration. En effet, on entend bien la différence puisque le cor anglais est beaucoup plus rond et d'ailleurs le pavillon est arrondi au bout, plus grave aussi. Et la différence de taille et de forme du pavillon explique cette différence, je crois.
Absolument, absolument. C'est-à-dire que j'ai joué exactement les mêmes notes, les mêmes doigtés et on a entendu une sonorité et et surtout des notes, c'est-à-dire un peu plus graves. Toute la mélodie était ce qu'on appelle transposée, un peu plus grave.
C'est très bien. Merci, c'est vraiment formidable de pouvoir bénéficier de votre art hein, comme ça pour nos auditeurs. Alors je propose maintenant que l'on écoute un extrait de Pierre et le Loup où le hautbois a un rôle important. La musique et les textes sont de Serge Prokofiev. C'est un merveilleux CD de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, sous la direction de Tougan Sokiev. Valérie Lemercier raconte. Elle a également dessiné les personnages, illustré tout le livret du disque, qui propose également d'autres contes russes. C'est vraiment un beau cadeau à offrir aux petits et aux grands pour ce Noël qui approche. Écoutez bien, le hautbois joue le rôle du canard, ce qui est quand même pour un musicien le comble, mais c'est interprété par quelqu'un qui ne fait jamais de canard. C'est Christian Fougerousse, avec qui vous partagez le pupitre.
Absolument, c'est mon collègue, oui, notamment.
À l'Orchestre national du Capitole de Toulouse.
Un canard arriva bientôt en se dandinant. Tout heureux que Pierre n'ait pas refermé la porte du jardin. Il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare, plouf, au milieu du pré. Devant le canard, le petit oiseau vint se poser sur l'herbe, tout près de lui. « Mais quel genre d'oiseau es-tu donc, qui ne sait voler ?» dit-il en haussant les épaules. À quoi le canard répondit « Oh, quel genre d'oiseau es-tu qui ne sait nager ?» Et il plongea dans la mare. Le canard nageant dans la mare, le petit oiseau voltigeant au bord. Soudain, quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait en rampant.
Dialogue entre l'oiseau incarné par la flûte gazouillante de Sandrine Tilly et le canard joué par le hautbois mélancolique, le chat entre en scène et c'est la clarinette de votre confrère, collègue David ?
Absolument, David Minetti.
David Minetti. Alors, la clarinette, quand on voit un orchestre symphonique, on peut confondre le hautbois et la clarinette. Quelles sont les différences majeures en deux mots ?
Alors en fait, effectivement, morphologiquement, les instruments se ressemblent beaucoup. Les différences plus importantes se trouvent au niveau de l'embouchure, c'est-à-dire que l'anche du hautbois est une anche double. C'est tout simplement deux morceaux de roseau qui vibrent l'un contre l'autre et qui sont assez étroits, alors que la clarinette a un bec donc en ébonite ou en ébène sur lequel est ligaturée une anche beaucoup plus large et simple, un morceau simple de roseau, une petite palette de roseau qui vibre sur le... D'autre part, la forme de la perce, c'est-à-dire la manière dont l'instrument est foré, dont le morceau de bois est foré, n'est pas la même, c'est-à-dire que la clarinette a une perce cylindrique, le hautbois a une perce conique, ce qui engendre une sonorité différente, des propriétés différentes, et une facilité, une virtuosité aussi différente.
Tout ça est passionnant, il nous faudrait des heures pour que je puisse décrire toutes vos petites cuisines avec vos hanches. C'est assez extraordinaire à voir quand on connaît un petit peu les musiciens. Serge Krichemski, comme exemple encore du hautbois, vous avez choisi un extrait de la 4e symphonie de Tchaïkovski par l'Orchestre National du Capitole sous la direction du jeune fantastique chef Tougan Sokiev. Deux mots sur cette œuvre.
Alors c'est une œuvre, une des plus belles œuvres de Tchaïkovski, que nous avons beaucoup joué avec Tougan Sokiev avant de l'enregistrer, qui est une puissance notamment par son thème du destin, son thème du fatum, qui a été après ça également développé dans la 5e et la 6e. Moi je la trouve particulièrement réussie, elle a des mouvements très variés de coloration et le 4e donc termine la symphonie dans un grand éclat de feu d'artifice de festif
et qui commence par un solo de hautbois.
Alors ça c'est le mouvement mélancolique, le deuxième mouvement.
Alors nous écoutons. Serge, nous avançons un petit peu dans le mouvement.
Troisième mouvement, qui est une sorte de fête populaire, donc qui alterne les cordes en pizzicato et les vents. Et là, c'est l'apparition du hautbois dans l'aigu, l'apparition des bois.
Serge Krichemski, en dehors des concerts au sein de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, qui est une des fiertés de la ville rose, vous vous investissez dans les clés de Saint-Pierre. Comment est né ce projet il y a 11 ans maintenant ?
Alors, il est né d'une idée un petit peu folle, de vouloir produire et donner la possibilité aux musiciens à tous les musiciens de l'Orchestre du Capitole de se produire en petite formation dans la salle qui à l'époque était nouvellement restaurée, donc de Saint-Pierre-des-Cuisines. Nous avons eu la chance à l'époque d'obtenir 4 dates qui nous avaient été donc proposées par le Conservatoire de Toulouse. Et maintenant, nous en sommes à 5 concerts par an depuis déjà 5-6 ans. Et finalement, l'aventure c'est bien structuré. Au départ, il y a un certain nombre de choses que nous ne savions pas faire très bien. Nous faisions vraiment quasiment tout de A à Z, avec l'appui d'un certain nombre de personnes, notamment l'imprimeur Escourbiac, et puis rapidement aussi la mairie de Toulouse. Et puis, nous avons pu développer cette formule de proposition des projets qui sont demandés aux musiciens en début d'année, et nous faisons un vote. Nous choisissons donc 5 projets qui nous paraissent les plus intéressants pour notre saison.
Alors, ce sont 5 concerts de musique de chambre qui réunissent des musiciens d'orchestre, comme on dit, mais qui sont en fait tous des grands solistes. C'est la chance que l'on a dans cet orchestre, c'est qu'on s'aperçoit là que chacun des musiciens d'orchestre, en fait, est un soliste et qui, en plus, peut proposer des programmes. Ce sont toujours des constructions différentes, des formations différentes. Autour d'instruments, de compositeurs.
Alors, effectivement, tout est laissé à la liberté des musiciens, c'est-à-dire qu'ils nous proposent une fiche avec un thème, hein. Ça peut être un compositeur, ça peut être une époque, ça peut être un instrument, et la plupart du temps, les choses, nous devons écarter à regret un certain nombre de projets, mais effectivement, vous aviez raison de dire que chaque musicien est un soliste, puisque de toute façon, l'intérêt de la musique de chambre, c'est de nous réunir, de nous faire nous connaître mieux. Et il est certain que le concert de musique de chambre, quand on est 5 ou 6 sur scène, on a une stimulation qui est très grande, on a un travail aussi qui est important, et ça ne peut que ça bénéficie énormément à l'orchestre.
C'est une association, les Clés.
Absolument, l'association Internaute et la saison Les Clés de Saint-Pierre, donc le cadre, si vous voulez, juridique, et s'appelle Internaute.
La présidente,
Madame José Simonetta, qui est une grande amie de beaucoup d'entre nous.
Oui,
qui a beaucoup œuvré pour la musique de chambre et pour la musique en région au sein de l'orchestre du Capitole de Toulouse jusqu'à il y a quelques années.
Incontournable, José Simonetta, qui sait tout sur la musique. Alors, les concerts ont toujours lieu, comme vous l'avez dit, à Saint-Pierre-des-Cuisines, à 20h.
Absolument, les lundis, qui étaient notre jour de repos, que nous avons choisi d'utiliser pour la musique de chambre.
En fait, on ne se fatigue jamais de faire de la musique.
Absolument, je dirais même que ça nous donne de l'énergie d'en faire.
Le numéro de téléphone pour avoir des renseignements est le 06 63 36 02 86, mais on peut également avoir des renseignements et acheter des places dans tous les lieux habituels, Fnac, Carrefour, etc. Alors, le premier concert était en octobre. Je n'ai malheureusement pas pu vous recevoir plus tôt. Il était consacré à Brahms. Et le prochain rendez-vous sera le lundi 29 novembre à 20h et il s'intitule « Souvenirs dans France ».
Voilà, c'est une petite idée que nous avons eue pour ce titre autour donc de la musique française, hein, une musique qui est d'une grande richesse et souvent un peu moins jouée que les autres compositeurs, les grands compositeurs allemands qui sont au répertoire des concerts de musique de chambre, des compositeurs comme André Caplet, Poulenc bien sûr a écrit une œuvre de musique de chambre qui n'est pas énorme en quantité mais qui est grande en qualité. Alors il y a aussi une chose à dire importante, c'est que les musiciens français ont toujours eu une grande passion pour les instruments à vent. Et là, nous présentons dans ce concert des sonates, un trio, un quintet pour instruments à vent et piano. Et c'est le reflet de ce que toutes les écoles d'instruments à vent français ont pu donner et proposer aux compositeurs.
Quand vous dites instruments à vent, en l'occurrence, là, il y a flûte, hautbois, clarinette, basson.
Absolument, les bois. Voilà, ce sont les bois, effectivement. On n'a pas du tout de corps ou de cuivre cette fois-ci. Il arrive que les bois jouent avec un corps en quintette avant, mais cette fois-ci, c'est une formule donc de 4 bois, flûte au bois, clarinette, basson et le piano.
Alors, nous allons écouter un extrait du quintette pour vent et piano de Caplet, et puis nous continuerons la saison ensuite. Serge, le troisième concert des Clés de Saint-Pierre se déroulera le lundi 14 février 2011, donc nous sommes déjà en 2011, à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Il s'appelle « tempête romantique.
Alors effectivement, dans cette tempête romantique, nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs musiciens qui viennent d'arriver à l'orchestre, qui sont nouveaux et qui jouent pour la première fois dans la saison des Clés de Saint-Pierre. En général, cette saison 2010-2011 est particulièrement riche en nouveaux musiciens. Nous essayons toujours de faire jouer vraiment les anciens, les gens qui sont là depuis peu de temps et les tout jeunes arrivants. Alors donc dans ce concert, nous aurons en particulier Aude Puccetti, David Benetta qui avait déjà joué le 18 octobre, qui rejoue, Cyril Robert, Vincent Casanafpin, Gaël Sédoux aussi qui joue pour la première fois. Un répertoire superbe, donc de quintette à cordes avec deux altos. Le quintet à cordes de Beethoven qui est assez peu joué, assez peu connu, qui est vraiment de la classe de certains grands quatuors.
Et le quatuor, les quintettes à cordes de Beethoven sont très rares. D'abord, il n'en a écrit que trois, je crois.
Absolument. Vous avez tout à fait raison. Ils sont très rares. Celui-ci est beau. Apparemment, il est assez difficile. Ça expliquerait, mais moins de gens le connaissent. Le quintet de Bruckner également est assez assez différent de tranche un peu sur la production même par rapport à Brahms, par rapport, et il est assez rare, surtout pour un compositeur qui a beaucoup écrit de musique symphonique et de musique religieuse.
Alors nous écoutons ce quintet de Beethoven. Budapest String Quartet plus un alto
oui, absolument. Milton Catins qui s'est ajouté à l'ensemble
pour faire un quintet. Alors c'est frappant la façon dont vos programmes sont construits. Par exemple, revenons sur celui-ci où il y a Beethoven et Bruckner qui il y a une espèce de filiation. Beethoven est mort, je crois, à Vienne 2 ans avant que ne naisse Bruckner, qui est lui autrichien. Donc on pourrait continuer comme ça en intercalant peut-être du Schubert ou d'autres.
Absolument. Vous avez tout à fait raison de dire que Schubert est le maillon entre Beethoven et Bruckner. Et il a écrit d'ailleurs des œuvres dans le sillage de celles qu'on vient d'entendre, des œuvres pour cordes à la fin de sa vie, après la mort de Beethoven. C'est-à-dire qu'on dit en général que la mort de Beethoven a libéré Schubert d'un élan créateur extraordinaire.
Je crois qu'il est très émouvant que les tombes de Beethoven et de Schubert ont été réunies côte à côte dans un même cimetière.
Alors, nous sommes très satisfaits d'avoir ce programme, parce que c'est vrai qu'on a eu un programme Brahms en début de saison, on a eu ensuite un programme de musique française, là nous avons le 14 février de nouveau un programme allemand, et on a comme ça cette alternance de musique dans cette saison. Ça s'est fait un petit peu par hasard. Il y a un dialogue entre la musique allemande, la musique française, et c'est un dialogue très riche parce que ces deux nations ont produit énormément de grands compositeurs. Et puis bon, il y a une histoire aussi, une histoire un peu passionnelle parfois à certaines époques entre ces deux pays également. Donc,
D'ailleurs, le lien avec le concert suivant du 4 avril à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, toujours, c'est rigolo parce que bon, on passe de la musique allemande du 19e siècle à la musique française du début du 20e, mais les titres se suivent et ne se ressemblent pas. On passe de la tempête romantique à invoquer Pan, dieu du vent d'été. Est-ce que là
absolument,
aussi, il y a un
absolument.
Lien
d'aérologie,
je dirais.
Alors le lien, effectivement, le lien s'est fait naturellement par les titres choisis par les musiciens. Il y a la disposition également que nous faisons au mieux, hein, suivant les disponibilités de chacun, à placer côte à côte cette tempête et puis le calme qui suit la tempête, hein, romantique, le calme amené par la musique de Debussy, de Ravel, et puis le côté comme ça un peu transparent hellénique, hein, de Bilitis d'après Pierre Louis, et puis les danses sacrées et profanes aussi, la harpe aussi, la sonorité de la harpe qui
alors
s'allie tellement bien à la flûte.
On connaît relativement peu la harpe en instrument, en musique de chambre.
Alors effectivement, c'est un instrument qui a eu vraiment une grande heure de gloire, notamment porté par les musiciens français de ce tournant du 19e au 20e siècle. Les compositeurs d'abord comme Debussy, Ravel et puis ensuite d'autres. Hein. André Caplet a écrit une pièce fantastique, justement fantastique dans tous les sens du terme, d'après le conte d'Edgar Poe, Le Masque de la Mort Rouge, pour harpe et quatuor à cordes. C'est une pièce étonnante vraiment et très moderne, écrite je crois en 1915 ou 16. Donc les compositeurs français ont vraiment su tirer le meilleur parti de la harpe. Les compositeurs romantiques aussi, bien sûr, Strauss, Mahler l'avaient déjà fait, mais on peut dire que c'est vraiment la France qui a magnifié. Il y avait bien entendu les facteurs de harpe, hein, comme Erard, Pleyel, on magnifié vraiment l'instrument.
Alors dans l'opéra, la harpe symbolise presque toujours l'eau, la rivière, ce qui coule,
oui, absolument.
De source comme ça.
Oui, oui.
Et nous avons la chance d'avoir à Toulouse une grande harpiste, Gaëlle Touvenin, qui fait partie de l'association des Clés de Saint-Pierre, qui, lorsqu'elle est au cœur de l'orchestre du Capitole, rayonne absolument, et elle sera dans ce concert.
Oui, oui, vous avez tout à fait raison, c'est une grande personnalité que nous avons la chance d'avoir avec nous, Gaëlle, qui a été une des fondatrices des Clés de Saint-Pierre avec nous, et chaque fois qu'elle participe à un des concerts, nous sommes toujours ravis parce que c'est un instrument superbe dont elle joue magnifiquement, bon, et c'est vrai que ça n'est pas non plus tous les jours qu'on peut avoir un programme avec harpe, donc chaque fois qu'on a une proposition, en général on est ravis de pouvoir la mettre en avant.
Encore un instrument pas très facile à transporter.
Absolument, et c'est un instrument très complexe, vraiment il y a une, sous cette beauté comme ça plastique extérieure, se cache une mécanique redoutable avec des pédales, des consoles, des tringles, des crochets, enfin, et puis ça demande une technique pas seulement de mains et de bras mais de pieds qui est tout à fait
complète,
hein, absolument.
Oui. Alors nous allons écouter une de ces sonates de Debussy enregistrée par Frédéric Cambrelin à la harpe, qui est entourée de Régis Pasquier, Pascal Roger, Bruno Pasquier, enfin tout Philippe Bernol à la flûte, toute une pléiade de grands solistes.
Thank you.
Serge Krichevski, dans ce concert, il y aura donc cette sonate de Debussy. Vous me disiez que c'est une de ses dernières œuvres.
Absolument. On a malheureusement échappé. On a malheureusement eu le regret de ne pas avoir la sonate qui était projetée pour hautbois, cor et clavecin par Claude Debussy, qui avait projeté 6 sonates à la fin de sa vie, qui n'a pu en écrire que 3. Donc cette sonate pour flûte, alto et harpe est un de ses derniers chefs-d'œuvre.
Il y aura d'autres œuvres de Debussy dans ce programme, dont une transcription ou un arrangement, je ne sais pas comment il vaut mieux dire, de Children's Corner, qui est une de ses œuvres, un de ses tubes.
Oui, absolument.
Qui est écrit pour le piano.
Pièce, très très célèbre.
Et puis du Maurice Ravel.
Oui, Maurice Ravel, qui donc Ma mère loi, qui était au départ précisément une pièce pour piano à quatre mains, qui a été orchestrée vraiment d'une façon magistrale pour petit orchestre, et après ça régulièrement retranscrite ou arrangée pour des formations diverses.
Dans ce concert, il y aura également une récitante. C'est pour quelle œuvre?
Alors, Clara Fussier donc est prévue pour être la récitante des chansons de Bilitis, qui sont basées sur des textes de Pierre-Louis. Donc c'était une sorte de pastiche néo-hellénisant de Pierre-Louis qui mettait en scène voilà des personnages de l'Antiquité. Et ça, il y a eu cette collaboration féconde entre Debussy et Pierre-Louis à ce moment-là.
Alors Serge, j'ai remarqué que les titres de ces 5 concerts sont magnifiques et toujours pleins d'humour. Les textes des programmes sont toujours passionnants et pleins d'humour également. C'est vous qui les rédigez?
Alors moi, je participe assez souvent. Disons, dès qu'on a un petit trou d'inspiration, j'essaye de mettre... moi, j'en ai trouvé un certain nombre depuis 10-11 ans. Effectivement, les clés de Saint-Pierre, j'ai écrit régulièrement les textes pendant... 7 ou 8 ans, et puis on a eu des gens qui ont un petit peu pris le relais par moment. Actuellement, on a Marika Blondel qui veut bien écrire les textes, mais disons que c'est vrai que j'ai toujours eu un petit peu l'habitude d'être cette cheville littéraire, comme ça, pour l'association, chaque fois qu'il fallait écrire une lettre ou un texte.
Je précise ouais. D'ailleurs, pour nos auditeurs qui ne peuvent pas le voir, que les clés de Saint-Pierre, c'est écrit C-L-E-F-S, mais le F est transformé en une clé.
Absolument, c'était précisément notre idée, c'était que la clé, le F, soit une clé de sol et qu'on puisse faire voilà un double symbole, grâce à l'opportunité de jouer à Saint-Pierre-des-Cuisines, qui est vraiment une chance.
Oui, donc et les clés de Saint-Pierre, effectivement, le jeu de mots est à plusieurs tiroirs. Le 5e et dernier concert de cette saison, lundi 23 mai, porte un titre très drôle, de la flûte à la baguette. Avez-vous choisi cette date en raison de la fête du pain, le 16 mai, jour de la Saint-Honoré, patron des boulangers?
Alors, je n'étais pas au courant, mais c'est vrai que le 16 mai, on pensera déjà... Enfin, les flûtes et les baguettes vont défiler dans nos assiettes, dans nos estomacs, dans nos bouches. Mais également, la flûte est un instrument à bouche. La baguette, c'est l'instrument favori des percussionnistes, quel que soit l'instrument sur lequel qu'ils font résonner. Et donc on a cette association très très intéressante de la flûte et de différentes percussions qui culmine effectivement en deuxième partie avec la suite en concert d'André Jolivet. La flûte a été un instrument un petit peu fétiche de Jolivet. Il a beaucoup beaucoup écrit pour cet instrument. Et Jolivet avait été l'élève d'Edgar Varèse. Il a écrit une musique souvent un peu incantatoire, basée sur le rituel, avec des choses comme ça un peu magiques. Et c'est très très particulier. Bien entendu, ce sera un programme plus tourné vers le XXe siècle, mais c'est un de nos soucis aux clés de Saint-Pierre, c'est d'équilibrer aussi les différentes époques. Là, on avait l'époque romantique, on avait le début du XXe, et là, on a franchement un répertoire plus postérieur à 1950.
Oui, deuxième partie du XXe siècle. Alors, il faut préciser qu'il y aura quand même 1, 2, 3, 4, 5 percussionnistes.
Absolument.
Tous du Capitole. Ça va déménager,
et
là.
Exactement. Et c'est un grand plaisir aussi d'avoir non seulement les nouveaux arrivants, comme Émilien Prodhomme et Jean-Sébastien Borsarello, mais également Jean Louverne, Michel Ventula, Christophe de Varumès, tous les percussionnistes du pupitre. On a le pupitre au complet. Et on a rarement eu ça aux clés de Saint-Pierre, parce qu'il n'est pas évident de présenter des percussions dans la musique de chambre, sauf quand les percussions sont seules en groupe. Comme on connaît les percussions de Strasbourg, elles jouent à plusieurs. uniquement des percussions. Là, associer les percussions à d'autres instruments, c'est plus rare. Donc là, le programme est très bien agencé. Et on a en plus donc tout ce pupitre au complet, comme on avait eu il y a quelques mois le pupitre des corps. On avait eu les six corps. Ouais. On a eu également les violoncelles, Autocelli. On a eu huit violoncelles de l'orchestre. Donc voilà, c'est un petit peu un...
C'est un quintet de percussions.
Absolument.
Auquel s'ajoutent, et il ne faut pas oublier, les petites flûtes et les grandes flûtes, Sandrine Tilly et Claude Roubichou, qui est également au piccolo dans l'orchestre.
Absolument, peut-être même qui jouera d'ailleurs du piccolo dans le programme, c'est très possible.
Alors là aussi, un rendez-vous à ne pas manquer. Est-ce que André Jolivet était peintre également?
Alors personnellement j'ignorais, mais c'est possible. Je savais qu'Arnold Schoenberg avait beaucoup peint.
Oui, il y a eu une exposition aux abattoirs ici.
Oui, absolument, au moment d'Erwartung. Jolivet, je l'ignorais, mais c'est très possible. Oui. C'est un compositeur qui avait une grande culture aussi, qui était très intéressé par les arts premiers, les arts océaniens, ça, ce qui s'entend beaucoup dans sa musique d'ailleurs.
Alors écoutons ses couleurs. Des détails pratiques pour adhérer à l'association des Clés de Saint-Pierre, s'abonner à des conditions très intéressantes, aller au concert directement les lundis 29 novembre, 14 février, 4 avril et 23 mai à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Pour tous ces renseignements, réservation 06 63 36 02 86 et FNAC, Carrefour, etc. Il y a un site blog lesclés.wordpress.com. Serge Krzyzewski, vous êtes à la fois acteur de ces Clés de Saint-Pierre et musicien à l'orchestre du Capitole de Toulouse, auquel nous revenons pour conclure cette émission avec un hommage que nous rendons à Michel Plasson, qui a dirigé l'Orchestre national du Capitole de Toulouse durant 35 ans. Vous, les musiciens, et nous, le public, nous lui devons beaucoup. C'est un immense maître, défenseur de toute la musique, mais tout particulièrement de la musique française.
Effectivement, je ne sais pas s'il aurait apprécié ce titre de Souvenir d'en France que nous jouerons le 29, mais il a été une partie de sa vie, une importante partie de sa vie est encore consacrée à la défense de la musique française.
Oui, il travaille toujours beaucoup.
Absolument, il travaille toujours beaucoup à l'étranger. Il a été très apprécié en Italie, aux États-Unis. Et c'est sûr que je dirais même que je pense que les chanteurs, beaucoup de chanteurs, de chefs de chant lui sont très très fortement redevable de sa perception, de sa finesse de voilà, sur la musique française, sur d'autres musiques bien entendu. Il avait une capacité aussi à s'adapter à des tas de styles différents, et il était tout à fait il avait un répertoire très large, mais la musique française a été, est encore sa prédilection, son combat permanent.
Il a enregistré beaucoup d'œuvres de Bizet, dont un Carmen mémorable et la symphonie en ut. Alors vous nous avez proposé, hautbois oblige, un extrait du deuxième mouvement qui commence par un solo de hautbois interprété.
Alors voilà, donc effectivement il y a Jean-Michel Picard, donc qui est mon collègue depuis maintenant pas mal d'années, et qui est véritablement un des plus brillants représentants de l'école française de hautbois, qui a enregistré donc cette symphonie dont le deuxième mouvement est un petit peu un des, comme ça, un morceau de concours, une pièce superbe qui est très emblématique de la sonorité et de des possibilités du hautbois.
Quelle belle musique, Serge.
Oui, c'est vraiment un ravissement, une sorte de danse langoureuse tout à fait délicieuse.
Oui, avec une souplesse, des couleurs, on a envie de danser.
Oui, c'est vraiment le grand art de la mélodie française là, qui démarre avec Berlioz, Bizet, et puis ensuite qui aboutira justement à Ravel, Debussy et Fauré.
Malheureusement, on ne peut pas écouter plus puisque le temps passe trop vite. Je voudrais juste préciser aux auditeurs d'Altitude FM, la radio du Grand Toulouse, qui ne vous voit pas dans le studio mais qui circule en ville ou bien visite le site de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, Je voudrais leur dire que sur la très belle campagne d'affichage de l'orchestre que l'on voit dans tout, partout, vous êtes l'un des deux oboïstes qui font les pitres sur la photo autour de la fontaine de la place du Puy.
Oui, effectivement, il y a donc un photographe tout à fait inventif qui avait prévu des petites scénettes, des petits scénarios qu'il a très bien pu réaliser avec Christian Fougeroux, mon collègue, et moi-même, et puis avec tous les collègues. Hein. Il y a aussi des belles photos avec le tubiste Sylvain Picard, avec le clarinettiste. Et
c'est très Sarah drôle, ce sont de très très belles affiches et très parlantes finalement, puisque on ne vous voit pas dans les positions habituelles, mais vous êtes
absolument,
on voit que vous êtes des vraies personnes de chair et d'os.
Il a su très bien personnaliser avec effectivement très peu de moyens, en donnant avec la posture, le cadrage.
C'est très très beau. Alors le prochain concert, Serge Krzyzewski.
Alors le prochain concert, Catherine, aura lieu ce soir, donc 25 novembre, avec sous la direction d'Ilan Folkoff. C'est un programme qui mélange la musique du XXe siècle avec une pièce de Bruno Mantovani. Ensuite, le concerto, très beau concerto d'Henri Dutilleux pour violoncelle avec Gauthier Capuçon, si je ne me trompe pas.
Oui, que nous connaissons bien,
voilà,
à Toulouse.
Voilà.
Oui.
Et puis, en deuxième partie, une œuvre classique, la 8e symphonie de Beethoven, que nous avons assez peu jouée ces dernières années. Et on est très heureux de la retrouver dans nos concerts.
C'est donc ce soir, jeudi 25 novembre à 20h.
Absolument.
À la Halle au Grain. Il reste encore des places. On peut aussi aller sur le site de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse où il y a beaucoup d'informations et ces fameuses affiches. Serge, je vous remercie beaucoup d'être venu nous faire partager votre amour du hautbois et de la belle musique. Au revoir.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir à toutes, au revoir à tous. Paul de Musique vous dit au revoir et à jeudi prochain sur Altitude FM.